France Musique.
Al-Andalus ou un parfum de nostalgie. Un émirat fondé à Cordoue le 15 mai 756 fait de l'Espagne le premier État musulman indépendant. Jusqu'à cette date, tous les musulmans sont soumis à l'autorité directe du calife de Bagdad. Peu après la mort du prophète Mahomet en 632, ses successeurs, les califes de la dynastie des Omeyyades, établissent leur capitale à Damas en Syrie. Mais une révolte naît en Perse, entraîne en 750 le massacre du calife et de toute sa famille. Une nouvelle dynastie de califes accède alors au pouvoir, les Abbassides, et s'installe à Bagdad. Seul un Omeyyade survit au massacre. Il s'agit du petit-fils du calife Hicham, dénommé Abdelrahman el-Dakhil. Après de longues péripéties en Afrique du Nord, il parvient à quitter la Syrie et passe en Espagne, où il s'empare de Séville, puis Cordoue en 756. Abdelrahman Ier fonde dès lors un émirat indépendant. C'est sous son règne, en 786, que la grande mosquée de Cordoue voit le jour. Elle est le premier bâtiment musulman andalou. Une synthèse de l'art islamique et de l'héritage romain, qui, maintes fois agrandie, devient la plus grande mosquée du monde après la Mecque. Celle que l'on nomme la perle de l'islam. Un demi-siècle plus tôt, la péninsule ibérique est conquise par un chef berbère du nom de Tariq. Il obéit au calife Omeyyade et avec ses 12 000 hommes, il bat l'armée du roi Visigoth, Rodrigue, en juillet 711. La dynastie royale, issue des Visigoths, est alors renversée. Composé d'une mosaïque de peuples, le royaume Visigoth est latinisé depuis 3 siècles et se considère comme l'héritier de plein droit de Rome. La conquête s'achève définitivement en 721 et s'arrête en Gaule avec la défaite de Poitiers en 732. La péninsule ibérique est d'alors partagée entre 2 civilisations, l'Orient musulman et l'Occident chrétien, composé de Romains, Juifs, mais aussi de Syriens et de Byzantins. D'un côté, ce que les textes arabes appellent Al-Andalus, l'islam d'Espagne, de l'autre, l'Hispania chrétienne. Il faut cependant attendre 913 et l'arrivée au pouvoir d'Abdelrahman III pour réunir les provinces d'Al-Andalus et unifier l'Espagne mauresque. Abdelrahman se proclame calife et prince des croyants le 16 janvier 929. Et revendique la légitimité omeyyade perdue. Avec Abdelrahman III, puis son successeur Al-Hakam II, Al-Andalus entre dans son âge d'or, une époque de prospérité économique et de splendeur culturelle. Les dignitaires et les grandes familles donnent naissance à un art de vivre élaboré et raffiné. C'est l'ère du califat de Cordoue qui rayonne de 929 à sa chute en 1031. La figure du musicien Ziryab est alors l'une des plus prestigieuses de l'histoire de l'Espagne musulmane. Ce personnage, haut en couleur, incarne le faste de la cour des Omeyyades de Cordoue. Né en Irak vers 790, Abu al-Hassan, surnommé Ziryab le Merle, apprend la musique auprès des plus grands maîtres. Il y excelle tant qu'à Bagdad, on l'introduit auprès de Harun al-Rachid, calife des Mille et Une Nuits. Mais Ziryab est contraint de s'exiler, en raison, dit-on, de la jalousie de ses pères. Il réapparaît quelques années plus tard en Tunisie, d'où il finit par prendre la direction d'Al-Andalus. Il est alors reçu princièrement, et on le traite avec la plus haute considération jusqu'à sa mort en 857. Grand lettré, Ziryab se distingue à la cour des Omeyyades comme un musicien hors pair. On le décrit comme le meilleur et le plus merveilleux chanteur à l'Andalus. On attribue à Ziryab la fondation à Cordoue d'une école où lui et ses fils enseignent une musique originale, matinant les codes de la musique irakienne d'innovations diverses, rythmiques, mélodiques et textuelles. On dit qu'il ajoute une corde aux luttes. Apportant avec lui une partie du raffinement de la prestigieuse cour de Bagdad, Ziryab devient l'arbitre des élégances de l'Espagne omeyyade. On raconte qu'il enseigne aux cordouans les recettes les plus complexe de la cuisine irakienne et l'art d'ordonnancer les repas. C'est aussi Ziryab qui décide d'un véritable calendrier vestimentaire et décrète le port de tuniques chatoyantes au printemps. L'État omeyyade brille de tout son éclat. L'Andalousie rayonne sur toute la chrétienté occidentale et conserve un contact étroit avec les autres foyers de culture du monde musulman, que sont Bagdad, Damas, Le Caire et Kairouan. En rapport avec le monde entier, en particulier avec les Hongrois et les Slaves, le calife entretient aussi des relations amicales avec les empereurs byzantins. La prospérité économique est éclatante. La flotte andalouse est maîtresse de la Méditerranée occidentale et a placé la majeure partie du Maroc septentrional sous la protection ouméyade. Les ambassades européennes affluent à la cour de Cordoue. Le roi de Léon envoie son fils compléter son éducation auprès de l'émir mort de Saragosse. Et Cordoue, sous le contrôle d'Abdelrahman, est une véritable métropole artistique, culturelle, politique et technologique. Les innombrables découvertes accomplies à l'Andalous circulent vers l'Europe et participent ainsi à son rayonnement à travers le monde. Les mozarabes chrétiens, tout comme les juifs, jouissent d'une certaine tolérance. Ces derniers, persécutés par les rois wisigoths, accueillent les envahisseurs musulmans avec une certaine bienveillance. Ils sont autorisés à participer à la vie économique, à la vie publique et aux multiples activités intellectuelles. Les communautés juives peuvent alors se développer dans Al-Andalus. Ils sont toutefois soumis à la dhimma. Ils n'ont d'autre choix que d'acheter leur protection par un impôt spécial. Si le Coran prévoit explicitement un statut personnel, spécifique, destiné à protéger les gens du livre, qui ne peuvent être convertis à l'islam par la force, ceux-ci demeurent toutefois inférieurs aux musulmans. Mais par leur double appartenance, chrétiens d'une part, arabes de l'autre, les mozarabes sont naturellement amenés à tenir une place active dans la diffusion des idées, des thèmes et des formes élaborées dans l'Espagne méridionale, sous mouvance musulmane. Ils jouent alors un rôle économique et intellectuel essentiel. Ils sont le trait d'union avec les principautés chrétiennes du Nord. L'impôt est lourd, mais on dit le peuple heureux. Du moins vit-il dans l'aisance tant l'empire est prospère. Industrie, agriculture et commerce sont florissants. On introduit des plantes inconnues. La canne à sucre, le coton, le mûrier, des fruits et des légumes inconnus en terre andalouse. Le climat idéal à l'Andalous favorise dès lors la culture des oranges, des amandes, du riz, des figues, des citrons. Et l'art de la cuisine s'enrichit en recueillant les parfums et saveurs d'Inde, de Perse, d'Afrique que les musulmans apportent avec eux. Grâce aux aqueducs romains conservés et améliorés, l'eau des montagnes irrigue les champs, mais aussi les fontaines des innombrables patios et jardins aux mille secrets. L'Alcazar de Séville, l'Alhambra de Grenade. À l'Andalous, où l'âge d'or de la culture musulmane, quand les cours califales encouragent les arts et les sciences, quand les philosophes sont aussi des scientifiques, des mathématiciens, des médecins et praticiens, des théologiens, des juges et hommes politiques. Souvenons-nous des savants Averroès, le musulman, et de Maimonide, le juif. Al-Andalus et Cordoue, longtemps sa capitale, où le souvenir d'un art de vivre, d'une architecture mudéjar, des jardins aux senteurs exquises, de musique enchanteresse, d'un royaume qui se gagne en compulsant les livres, nous dit le roi poète Abadi de Séville. Al-Andalus, où le fruit des rencontres tumultueuses et fructueuses des cultures musulmanes, juives, chrétiennes et byzantines, où l'Orient et l'Occident, unis dans le creuset andalou pour quelques siècles, tel un relais culturel annonçant la Renaissance, on fait de ce temps le chant de la nostalgie. Le présent n'est-il pas toujours le miroir où le possible avenir regarde dans le passé ?
À réécouter sur francemusique.fr.